Au début, il n'y avait rien. Quand soudain...
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
C'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
C'est pas sûr que la locale existe encore. Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Une présentation extrêmement rapide puisque le son que nous allons écouter est très long et dure quasiment toute l'heure. Parmi l'ensemble des grèves qui ont marqué le mouvement contre la réforme des retraites, une a particulièrement mobilisé l'attention du public et les soutiens qui ont pu être exprimés. C'est celle des éboueurs et notamment des éboueurs de la région parisienne, même si évidemment ce secteur a été en lutte partout, à Marseille, à Caen, à Rouen, au Havre, etc., etc. Cette lutte a été extrêmement intéressante puisqu'elle a mobilisé à la fois des secteurs publics et des secteurs privés et elle a également permis à différentes personnes qui étaient mobilisées sur le mouvement contre la réforme des retraites de se rencontrer à l'occasion des différents blocages qui ont pu avoir lieu sur les sites notamment de crémation des déchets. Mais tout ça, les acteurs vont l'expliquer beaucoup mieux que moi dans quelques instants. Grâce encore une fois à l'actualité des luttes, à nos camarades Madeleine, Nadia et Joël qui nous ont permis d'accéder à cette émission, qu'ils en soient vivement remerciés une fois de plus. C'est parti.
Bonjour, donc je suis Candou Sabrina, ouvrier à la fonctionnelle à l'AVN.
Moi, c'est Bobby, je suis éboueur, donc collègue de Saint-Brignard, mais dans un service différent, à la ville aussi, un service public.
Pour commencer l'émission, on voulait diffuser une prise de parole qui avait eu lieu devant la TIRU suite à une tentative de réquisition.
Effectivement, les salariés ont décidé de continuer la grève. Le commissaire est monté immédiatement et pour vous donner une idée, c'est un site où ici, on a à peu près 90 salariés. Sur les 90 salariés, on avait plus de 70 salariés en AG. Alors qu'on travaille en 3-8 avec des rythmes particuliers. Donc ça veut dire que les salariés avaient fait l'effort de venir pour s'investir et donner leur point de vue. Et ceux qui n'étaient pas là avaient dit à leurs collègues qu'ils étaient également toujours grévistes. Donc il y avait vraiment une volonté, une fermeté sur le site de dire cette réforme, c'est de la merde et on va la foutre à la poubelle et on va se battre avec l'ensemble des citoyens. Quand on a lancé cette campagne, ce combat qu'on a mené aujourd'hui sur la filière déchets, On s'est organisé d'une manière différente de ce qu'on avait vécu avant. Avant, chaque bastion se battait à sa manière et sur son site de travail. Là, on a essayé de travailler ensemble en se disant, nous, dans nos métiers, tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans la filière du déchet, on a des expositions qui sont liées à nos métiers, aux horaires décalés, au fait qu'on travaille avec des produits qui sont sales et qui font que les espérances de vie, elles sont abîmées, elles sont entachées. Moi, sur une usine comme celle-là, nos salariés, ils perdent entre 10 et 15 ans d'espérance de vie. Ça, c'est la réalité de leur métier. Ils travaillent là, ils vont mourir 10 à 15 ans plus tôt. Donc, on a dit, c'est pas normal que les autres salariés qui sont dans des conditions pareilles de vie, qui ont des conditions abîmées, nos copains égoutiers, eux, c'est 17 ans d'espérance de vie. Parce que quand ils marchent dans les égouts, ils sont avec tous les excréments, toutes les saloperies qui sont là, et la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire que leur espérance de vie, elle est vraiment touchée. Donc, pour nous, c'était inacceptable de voir une réforme qui s'appliquait de manière mathématique, où on traite tout le monde de la même manière, alors qu'on a effectivement des salariés qui meurent plutôt liés à leur exposition ou qu'auront une durée de vie abîmée, entachée. Donc on est parti sur cette idée de dire, cette filière, on la met en lutte, on part sur le combat sur la région parisienne, et on part pas que sur notre filière, on part pas que sur notre métier, on élargit l'ensemble des métiers pénibles, l'ensemble des métiers aujourd'hui où des salariés partent cassés, partent abîmés par le travail. Est-ce que c'est normal qu'ils prennent ces 2 ans? Est-ce que c'est normal qu'ils puissent, pour beaucoup, même pas l'avoir cette retraite? Parce qu'aujourd'hui, on a encore énormément de salariés qui meurent avant l'âge de la retraite. Et surtout dans certains métiers qui sont identifiés. Donc pour nous, ce combat, il dépasse largement le système des retraites. C'est de dire qu'à un moment, le travail, c'est un travail qui doit être émancipateur, c'est un travail qui doit être rémunéré, qui doit nous permettre de vivre et d'être digne. Vous vous rendez compte aujourd'hui, nous, sur notre secteur d'activité, on fait partie des salariés des IEG. Donc les IEG, c'est EDF, Gaz de France. On avait dans notre régime, qui date de 46, des capacités de partir plus tôt. Car effectivement, à l'époque déjà, on avait mesuré qu'il y avait les salariés qui meuraient plus tôt en lien avec les expositions. Ce régime pionnier, il aurait dû s'étendre à l'ensemble des professions. C'est-à-dire dire tous les métiers pénibles, tous les métiers difficiles, on permet de l'élargir. C'est comme ça qu'il est né au niveau des pour alimenter la sécurité sociale dans les débuts des régimes. Mais ça n'a jamais été fait. Et au lieu effectivement d'étendre les régimes, ils sont en train d'attaquer les régimes pionniers qui étaient là, pour plutôt que de les élargir, en train de dire on va mettre tout le monde au même niveau, à rien, et tout le monde va crever au boulot. À 55 balais, il y a un salarié sur deux qui a la lourde. C'est-à-dire que cette réforme, elle va transverser les caisses. Ça va être le chômage qui va payer, ça va être le RSA, ça va être moins de cotisations pour la retraite. Donc on va paupériser la société. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Qu'on fasse une réforme en profondeur? Aujourd'hui, on est capable de faire payer autre que le travail. Depuis 40 ans, le capital est multiplié par 4. Quand nous, le salariat, on n'a pas bougé. Donc à un moment, il y a d'autres solutions que de dire que c'est toujours en même de payer. Et aujourd'hui, ce président, il est en difficulté. Et aujourd'hui, ce président, il va devoir rendre des comptes à son peuple. Parce que rappelons comment il a été élu. Il a été élu face au Front National. Il a été élu face à la xénophobie. Et effectivement, beaucoup de citoyens ont dit, nous, on fait barrage. Donc il n'est pas élu de manière démocratique. Donc ça, faut pas qu'il oublie. Et on a un combat encore majeur à gagner. Et c'est pour ça qu'on sera présent et qu'on va se battre jusqu'au bout et qu'on va gagner. Parce que si on perd, à qui on va laisser la place? Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Je terminerai sur un dernier mot. Vous savez, après-guerre, on avait un pays, il était ravagé par la guerre, il n'y avait plus rien. Il y avait une pauvreté qui était présente partout. On a créé la retraite, on a créé la sécurité sociale, on a créé le vivre ensemble. On a fait une société où, effectivement, on a donné sa place aux citoyens. Et là, aujourd'hui, le progrès social, la société qu'on espère pour demain, ça serait systématiquement de travailler plus, de travailler dans des mauvaises conditions, de ne pas faire le nécessaire pour qu'on puisse partir de manière digne, de pouvoir vivre avec sa famille, avec ses enfants. Ben nous, on dit clairement cette réforme, on va se battre et on va la faire tomber. Merci à vous. On va laisser les autres copains qui sont là, qui sont heureux, prendre la parole pour s'exprimer. Mais en tout cas, la lutte, elle commence et on ne l'arrêtera pas.
On vient d'entendre donc une des déclarations qui a été faite devant la TIRU. Et la première question, ce serait peut-être quelle différence vous voyez entre la mobilisation qui a pu avoir contre le régime des retraites de 2019 et celle de cette année.
Alors déjà, la première grosse différence, c'est que là, il y a eu un travail en convergence avec plusieurs secteurs professionnels. C'est-à-dire qu'en 2019, on était, comme dit à un moment, on était un peu chacun dans notre coin, à faire nos actions, nos grèves, nos blocages, etc. Et là, il y a eu une vraie coordination déjà en amont. Et quand on est parti le 6, c'était avec 3 fédérations. Il y avait les transports parce qu'eux, ils gèrent la collecte du privé. Il y avait la fédération des services publics et principalement du nettoiement, donc nous, pour tout ce qui est la collecte du service public. Et il y avait tous les travailleurs de l'énergie qui sont tous les gens qui travaillent dans le déchet aussi. C'est la même filière, mais dans les incinérateurs et les centres de tri. Donc là, il y a eu ce gros travail en amont avec ces 3 fédérations et tous les syndicats et tous les travailleurs de ces secteurs-là qui ont déjà préparé le truc avant. Et c'est pour ça que ça a été aussi fort et aussi organisé, ouais.
Alors quand tu dis vous avez préparé ça avant, tu peux nous donner un peu plus de... Il y a eu des réunions, des concertations, comment ça s'est passé?
Il y a eu tout un ensemble de réunions. Il y a eu, comment on a poussé hein, aussi les collègues à se mobiliser, on les a poussés à une certaine prise de conscience. Et d'ailleurs, même après les avoir poussés à cette certaine prise de conscience, j'estime quand même encore que c'était peu, c'était encore trop peu. Mm. Ça veut dire qu'avec ce peu, on a eu, alors si tout le monde s'était ne serait-ce qu'une seule journée mobilisé, on aurait, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, après c'est une manière de c'est une vision des choses, mais on aurait mis le feu. Mmh.
Alors on peut peut-être rappeler que donc vous avez commencé une reconductible à partir du 7 mars.
Mmh. Le 6 même la veille.
Le 6, mmh. Voilà, ouais. C'est ça exactement.
Histoire de mettre un petit coup de boost déjà pour que le 7 les gens soient déjà énervés, qu'il y ait déjà des poubelles dans la rue le jour de la manif. Mmh.
Et vous avez duré presque jusqu'aux vacances de Pâques hein.
Ouais, on a tenu 21 jours, je crois, quasiment. Enfin, ouais, on va arrondir à un mois parce qu'en vrai, il y a eu la fin de l'occupation, mais après, ça a continué quand même sur quelques blocages et quelques trucs.
Parce que justement, en 2019, on avait pu voir que vous étiez déjà mobilisé, mais effectivement, la visibilité qui a été donnée à la grève que vous avez construite cette année n'était pas du tout de la même ampleur.
Du tout. Je pense que l'ampleur qu'a pris le devenir de ce mouvement-là, c'est la prise de conscience. Moi, je pense que les gens, ils ont beaucoup plus pris plus conscience que le sujet duquel on était en train de traiter, en fait, c'est un sujet qui était mondial, qui concernait tout le monde et à toutes les échelles confondues. Parce que la conjoncture actuelle fait que aujourd'hui, même les gens qui ont des statuts supérieurs, ils sont touchés par cette conjoncture. Alors les petits et revenus moyens, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et il ne faut pas qu'on oublie les contrats PAC, etc., de solidarité. C'est même pas la peine.
Ouais. Alors c'est vrai que c'est intéressant quand même de rappeler, quand vous disiez on s'est organisé avec les autres filières, de voir comment est-ce que, en réalité, vous avez un certain nombre de contrats différents qui empêchent aussi à la base de se mobiliser. Et donc peut-être revenir un tout petit peu là-dessus. Donc le secteur des déchets, si je ne me trompe pas, il y a donc une partie qui est privée et une partie qui est publique.
C'est ça.
Et en plus de ça, au sein même de la filière même du public, il y a une diversité de contrats.
Ouais, il y a des contractuels ou des contrats, ce que nous on appelle des contrats précaires, qui sont tout un tas de choses, tout un tas de contrats différents, ouais. Avec des statuts différents, donc forcément, c'est compliqué, comme tu dis, de mobiliser les gens, de trouver des points communs et de réussir à les tirer vers ce truc-là, ouais.
Et est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé, vous avez vu, au fur et à mesure des années ou pas? Parce que toi, là, tu revenais sur le contrat PAC. Mm-hmm. C'est quoi ces contrats PAC?
Mais c'est un contrat qui n'existait pas. Hein. Donc, ouais. Si j'ai bien compris, hein, le contrat PAC, c'est ils ont le statut de fonctionnaire, mais ne seront jamais fonctionnaires.
Ouais, alors il y a le contrat PAC, voilà. Contrat PEC, et il y a encore un autre type de contrat dont je connais pas le nom, qui sont carrément des gens en fait qui viennent, qui vont travailler pendant un an, et après au bout d'un an, ça peut être renouvelable une deuxième fois ou je crois même une troisième fois, mais après ils sont pas titulaires. S'ils veulent être titulaires, là faut qu'ils passent le concours.
Le concours. Voilà.
Alors que normalement tu passes le concours et pendant un an t'es stagiaire et après t'es validé. Ouais, c'est ça. Et on peut aussi, au bout, sans attendre qu'ils aillent à la fin de leur pseudo-contrat, leur dire « non, on n'a plus besoin de toi, Et c'est ce qui se passe en général, d'ailleurs. En fait, on s'en sert juste pour...
Variable d'ajustement, quoi.
Pions, c'est ça.
À partir du 6 mars, vous commencez la grève reconductible et vous mettez en place une occupation sur le site.
Ouais.
Vous, sur la Tire d'Ivry, ce n'est pas la première fois que vous utilisez ce mode de mobilisation, qui est celui d'occuper en plus des piquets. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'occupation, selon vous, c'est un truc qui a aussi permis peut-être de rencontrer et de créer des liens, malgré justement la diversité des secteurs et des contrats, donc des personnes qui viennent sur le lieu de la Tire d'Ivry? Est-ce que c'était un moyen peut-être de dépasser ça? Comment ça a fonctionné?
Ouais, clairement. Bah, ça veut dire qu'en fait, c'est un espèce de spot où en plus on est là 24 heures. Et c'est une forme de maintenant, c'est une permanence militante en fait, si tu veux. En fait. En gros, on est là, les gens viennent, des gens qui ne sont pas au courant, des passants, des gens d'autres professions, des collègues, d'autres. Nous, on a eu même des éboueurs du 77 qui sont venus, qui sont mis en grève plus tard, de plein d'autres secteurs.
Des
c'était
élèves,
vraiment
un
espèce de foyer de discussion et de. Et de voilà et de partage rencontre. De rencontres sur comment on s'organise, pourquoi, sur on s'automotive, Ouais, c'est clair, c'est fondamental ce truc-là. Mais même d'ailleurs avant, nous, quand on parle aux anciens, avant les anciens, quand ils nous disaient à chaque fois qu'il y avait une grève ou quelque chose, tous les grévistes étaient là. Tous les grévistes étaient. Il y avait un lieu, soit
ça
c'était.
Ça n'avait rien à voir, oui. Ouais, en voilà. 2010, moi j'ai dormi une semaine à la Tiru, et ça n'avait rien à voir. Hein. On était en masse, il y avait du monde, mais la nuit c'était problématique. Mais en 2010, il n'y a pas eu ce problème-là. Hein. Il manquait même de place sur les lits de camp dans le dortoir. Là, le dortoir était quasiment vide.
Ouais, c'est clair. Et encore, et même déjà 2010, c'est-à-dire que c'est déjà ça, c'est le genre de truc que notre syndicat a gardé, parce qu'on a la particularité d'avoir un syndicat qui est encore assez massif et présent, ce qui commence à être rare. Et donc on a réussi un peu à garder ce truc là, même si comme tu dis c'est vrai que c'est un peu en perdition, mais dans les autres secteurs c'est encore plus compliqué.
Ah bah oui,
il y a plein de profits différents, il y a plein de motivations différentes, il y a plein de trucs, mais c'est vrai que dans ce côté là ouais, il peut y avoir des fois des différences
d'engagement
ouais, c'est clair, ouais, carrément.
La grève, elle a été visible,
oui,
et elle a été gênante,
oui,
pour pas mal de gens. Et c'est ça qui fait aussi l'importance et l'importance de cette mobilisation dans ce secteur-là, les monceaux de poubelles.
L'amoncellement d'ordures.
Ça, c'était absolument visible. Génial, ouais. Parce qu'on ne pouvait pas passer à côté de la grève. Si vous n'aviez pas été là, on aurait pu dire, bah ouais, il y a un mouvement, mais à part les jours de manifestation, on ne le voit pas, on ne le vit pas. Alors que vous l'avez rendu visible.
Oui, on l'a rendu visible. Et ce qui est, c'est triste, mais c'est la seule manière d'ailleurs pour qu'on puisse avoir les éboueurs en respect, c'est ça, hein, la grève. Dès qu'on est en grève, on est vu comme des héros. Alors que tout au long de l'année, on fait exactement le même boulot. Hein.
Ouais. Ouais, c'est clair. On se fait cracher dessus toute l'année. Et pour qu'on soit reconnu, il faut qu'on leur crache dessus.
Mais je te jure, il y a un petit monsieur, et d'ailleurs, il m'avait fait rire dans un. D'ailleurs, il est passé au journal, qui disait que les rats. Mais nous, les rats, on vit avec
c'est
toute l'année.
C'est votre quotidien.
Il a vu un rat, il était choqué, mais nous, on vit avec toute l'année. Et pour peu que tu travailles dans un secteur, comme on dit UP, c'est des opossums, les rats. Puisque avec le gaspillage qu'il y a, plus le rat il est nourri, plus il est gros. C'est des opossums. Et lui, il était choqué parce qu'il a vu un rat.
Ouais, même sans parler des rats, ils sont choqués de voir les poubelles, mais enfin, faut leur rappeler que c'est leur poubelle, quoi. Ils sont juste choqués de voir leurs propres déchets, quand même. C'est quand même marrant, tu vois.
Bah oui.
Puis il y a eu cette espèce de magnifique retournement où, quand même, là, on se souvenait qu'au Covid, vous étiez applaudi.
Ouais.
Et que là, vous étiez dérangeant.
Exactement.
Clairement.
Même pas dérangeant, on faisait chier le monde pour ne pas être vulgaire.
Tu disais, moi, je pense aussi que la grève, elle a marché parce que, justement, là aussi, les gens, ils se sont rendus compte qu'il y a un mouvement de conscience. C'était quoi les modes de discussion? De quoi est-ce qu'on parlait sur le piquet? Est-ce qu'on parlait que des retraites ou est-ce qu'en fait on parlait du quotidien,
du travail,
d'autres règles? C'était quoi les thèmes un peu?
Ah ouais, non, on parle de tout, c'est clair. On parle de tout. On parle beaucoup de nos conditions de travail parce qu'en plus on a, déjà on a nos revendications à nous propres parce que faut savoir que comme tout secteur, quand il y a un mouvement national comme ça, on met jamais complètement de côté nos revendications, surtout qu'en plus nos employeurs, eux, c'est un peu un truc qui se saisissent, tu vois, direct pour essayer de nous démobiliser en disant peut-être si je leur lâche un ou deux morceaux, ils vont peut-être lâcher le truc. La revalorisation de nos carrières, en fait, parce que le point d'indice est gelé, donc nous on essaye de faire bouger justement donc les grilles. On a des revendications
inclure
aussi
les
sur
primes,
ouais,
salaire,
les primes
salaire,
aussi, ouais, ouais. Transférer puisque, de la prime sur le salaire.
Voilà, puisque près de, et je crois pas que je sois loin, hein, près de 30 à 40% de nos salaires sont des primes.
Ouais.
Donc,
ils sont pas comptés pour la retraite.
C'est pas compté pour la retraite.
En fait, on est au SMIC, nous, quasiment.
Voilà. Un tout petit peu plus que le SMIC.
Ouais, voilà. Je suis à plus.
Ouais. Pour un métier hyper pénible.
Ben oui. Après, comme beaucoup d'ouvriers, moi, j'estime que quand tu t'es acquitté de ton nombre de trimestres, en activité, tu dois pouvoir prétendre à une retraite convenable. Donc, il y a ça aussi qui revient et de façon qui va revenir. Puisque, en plus, si on nous ajoute 2 ans dont on va s'acquitter, mais que si, tant est qu'on soit encore en vie, qu'on n'ait pas cassé notre pipe, on ne puisse pas encore une fois avoir une vie convenable, une suite de vie convenable après la retraite.
Carrément.
Parce qu'on peut les faire les 2 ans. Mais encore une fois, pour ceux qui vont les faire, si en plus, après les avoir faits, ils ne peuvent pas avoir une suite de vie convenable,
C'est ça le problème.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Pour manger des cacahuètes.
Pour ceux qui arrivent, ouais. Ouais,
mais
c'est
oui,
clair.
Plus. Mais oui,
parce que. On en parle encore en là. Fait... On a un camarade, ça fait quoi, 2 ans qu'il est à la retraite, là, il vient de mourir. Pendant un des mecs qui bloquait au garage d'Ivry, qui est mort aussi juste après le mouvement. Enfin, de toute façon, nous, on a l'habitude, mais.
À la
nous, les morts, on en a plusieurs chaque année,
eux,
on sait, c'est l'habitude.
Ils n'ont pas profité ou ils ont profité parce que c'était 62 ou 60.
Voilà.
Ouais. À 64, ils profitaient.
Ben, ouais, et d'ailleurs, juste un truc là-dessus, parce que si ceux qui ont suivi un peu le truc, d'ailleurs, il y a même un camarade du privé de Pizzorno qui est passé à la télé, et donc ils ont vachement posé le truc comme quoi nous, on a la retraite à 57 ans dans la fonction publique. Mmh. C'est un mythe. Alors oui, légalement, on a l'ouverture des droits à 57 ans. Tu connais quelqu'un qui est parti à 57, toi ?
Non. Ouais, moi, personnellement, de ce que j'ai vu, par rapport que quand il y avait ce fameux décret à l'époque, avec 3 enfants, tu pouvais partir à partir de 57 ans, mais pour aller toucher 700 euros, qu'est-ce qu'on fait avec
en
ça ?
En fait, c'est ça. Tu peux partir à 57, mais pas à ton
voilà.
Donc, en fait, voilà, pour avoir le taux plein, c'est comme tout le monde, en fait.
Ben oui.
Donc, personne part à 57. C'est juste, juste une petite parenthèse.
Ben non, il n'y a personne qui part.
Donc, ce qui fait que nous, c'est bien 62 et que le truc, c'est 64, quoi.
Je voulais revenir sur la question des soutiens. Parce que nous, ce qu'on a pu remarquer, d'abord, c'est qu'il y avait énormément de gens qui venaient devant les tirus ou devant les centres pour vous aider à bloquer.
Solidaires, oui.
Et qu'il y avait vraiment toutes sortes de personnes, des retraités, des étudiants, des lycéens, des
professeurs,
machins, enfin,
tout un panel.
Mais en nombre. Est-ce que vous pourriez nous raconter, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué, il y avait eu beaucoup plus de méfiance et d'impossibilité en 2019. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu à la fois en quoi ça a été hyper positif et puis en même temps les difficultés que ça a pu entraîner.
En 2019, on a commencé aussi un mois après le début de la grève nationale qui avait été commencé par la SNCF et la RATP. Donc là, c'était eux les têtes d'affiche du truc. Donc, sur un blocage à eux, il y avait beaucoup de monde dès le début. Là, c'est nous qui avons commencé. Donc, c'est nous qui avions la visibilité, donc ils sont venus un peu plus sur nos trucs. Après, je pense qu'effectivement, il y avait encore plus de monde parce que, l'air de rien, je pense que les gens, globalement dans la population, là en vrai, je vais dire peut-être une connerie, mais pour moi, 90% de la population, elle est contre cette réforme. Même les gens qui ont un niveau moyen, même la petite bourgeoisie, même les trucs et tout, il y en a plein, ils sont contre.
Mais oui.
Ils ne sont pas forcément pour la grève. Il y en a certains, ils ne sont pas pour la grève, mais ils sont contre la réforme. Donc, du coup, il y a eu un mouvement
de sympathie
et une envie d'aider qui était peut-être un peu plus clair que la fois d'avant. Après, sur comment ça s'est passé, il y a eu plusieurs trucs. C'est que déjà, la particularité, c'est que nous, l'endroit qu'on bloquait, ce n'était pas notre outil à nous. Nous, on est venu bloquer un incinérateur. On n'est pas des travailleurs de l'incinérateur, nous. Donc, ça faisait partie de l'organisation, mais nous, on bloquait donc un lieu où on n'était pas employé de cette entreprise. C'est déjà une chose particulière, même si eux ils avaient un piquet à l'intérieur avec nous machin, mais c'était et à côté on bloquait nos garages qui sont souvent attenants aux tirus et aux trucs comme ça, ou pas loin en général dans le même secteur. Donc nous déjà on avait deux types de blocages, et c'était assez compliqué à mettre en œuvre du coup, parce qu'il fallait se relayer ceci cela, mais du coup au niveau des nous par exemple, nous on n'a pas demandé d'aide, nous
les garages, tu veux dire.
Sur les garages ou sur les tirus, nous, on n'a pas demandé à faire venir des soutiens. Bien sûr, les portes sont ouvertes, les gens viennent, il n'y a pas de souci. Mais nous, on n'a pas demandé, on n'a pas appelé au soutien. Par contre, les gens des incinérateurs, quand nous, on a eu du mal et qu'il a commencé à avoir les réquisitions, les gens des incinérateurs, eux, ont appelé au soutien. Enfin, en vrai, quand tu plonges un peu dans le truc et que tu mets les mains dedans, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de dynamiques hyper différentes et que les démarches sont différentes. Quand tu appelles des gens à venir en soutien sur ton truc, ils n'ont pas le même statut vis-à-vis du blocage parce que c'est eux qui le tiennent. Que quand c'est toi qui bloques et que là ils viennent soutenir. Enfin, ça change quelque chose. C'est moi qui dis, je constate juste que les dynamiques elles sont différentes. Donc, déjà, ça change. Il y a un rapport différent entre les soutiens et les travailleurs au niveau, sur plein de trucs. Au niveau de la prise de risque, des prises de décision, au niveau de la motivation des gens et tout. Donc, ça a été hyper complexe en fait. Et puis, ça a beaucoup changé. Il y a eu plein de dynamiques différentes. Mais après, dans les rapports avec les soutiens, il y a des gens qui viennent vraiment en tant que soutien. C'est un peu comme la notion d'allié dans le militantisme un peu. Et quand t'es l'allié d'un truc, bon, moi, t'es l'allié, mais tu peux suggérer des idées, mais tu vas pas non plus prendre la personne par la main pour lui expliquer comment faire. Bah là, c'est un peu le même truc. Et ça, il y avait des trucs. Moi, c'est mon point de vue du moins. Et dans les soutiens, bon, la majorité, on est tous d'accord avec ça. Il y a quand même des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça et qui, un peu, eux, on est sur le même blocage, on est tous à égalité. On a tous le même droit de prendre des décisions et même de prendre des décisions sans consulter les autres, etc. Bref, plein de micro-tensions, parce que c'est rien de grave non plus. Hein. plein de micro-tensions, ce qui fait que des fois, ouais, ça pouvait être compliqué. Ouais.
Moi, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi, est-ce qu'on ne peut pas se dire que potentiellement, il y a aussi cette volonté, là, d'un coup, cette année, de venir sur les espaces et aussi d'être un peu comme partie prenante de l'organisation de l'espace quand tu es soutien, notamment parce qu'il y a aussi énormément de soutiens qui, en fait, ne sont pas de secteur bloquant et ouais. avaient envie de participer la grève sans avoir de prise matérielle et véritable sur la mobilisation et qui donc vont sur les autres espaces avec cette volonté-là aussi et avec un truc de pas juste dire bon ben là j'ai 2 heures, je viens filer un coup de main, mais de se dire en fait je viens là parce que c'est aussi comme ça que moi je m'organise.
Tous ceux avec qui j'ai discuté, j'en connais beaucoup, avec qui on est en contact, avec qui on se connaît même en dehors de ces mouvements-là. En général, c'est quand même des gens, justement, ils ont constaté qu'ils n'arrivaient pas à motiver. Donc, ça veut dire que déjà, ils ont fait tout le travail harassant d'essayer de motiver. Ils n'y arrivent pas et donc, ils viennent sur les lieux où ça bouge. Parce qu'à ce moment-là, c'est un moment important. Là, c'est le feu, ça foisonne, ils y vont. Et en général, ils comprennent vachement les dynamiques, ils comprennent l'importance, ils comprennent le truc de qui est quoi. Toi, c'est ton outil de travail, t'es dessus à long terme, pas moi. Tu vois, il y a des trucs quand même importants. Mais...
Bien sûr.
Donc en général, justement, ces gens-là, c'est les gens qui captent le mieux ce genre de subtilité.
Là, ça a manqué.
Moi, c'est plus les gens justement qui vont avoir ah tiens, j'ai 2 heures, je fais pas grève, je fais rien, j'essaie rien, je suis même pas syndiqué, c'est pas le graal d'être, enfin si c'est un graal d'être syndiqué, mais je veux dire, je fais vraiment rien moi de mon côté, et puis c'est un peu, mon hobby, c'est un passe-temps quoi, tu vois.
Ouais.
Un peu des gens, alors, tant mieux, parce que des fois, ça peut les amener à aller plus loin, mais c'est plus ces gens-là.
Ouais, je vois.
Qui prennent ça un peu, qui nous prennent de haut, enfin qui prennent un peu le truc de haut, quoi, ou avec de la distance.
Et être un peu est-ce compliqué. Qu'une manière de peut-être gérer ces différentes dynamiques serait pas été peut-être d'ouvrir des réunions qui auraient englobé et les soutiens et les différents militants syndiqués, tu vois, un espace un peu plus formel, peut-être.
Ouais, bah après, le truc, c'est que la difficulté, c'est que déjà, nous, on est en occupation H24. Donc, ça a été compliqué de se dégager du temps en dehors du temps et un lieu en dehors de cet endroit-là, parce qu'il fallait le tenir, cet endroit-là. Mais après, tu vois, par exemple, quand on s'est fait jarter, quand il y a eu les perquisitions, il y a eu des assemblées générales qui ont été faites, d'ailleurs, qui ont été à l'initiative aussi beaucoup des soutiens, et où il y avait des travailleurs, où on s'est présenté, justement, pour essayer un peu de qu'on s'organise et qu'il y ait un endroit exactement comme tu dis, tu vois, un endroit un peu formellement posé et qu'on puisse discuter un peu techniquement, des stratégies et des trucs, et même d'avoir le débat de la place de chacun, quoi. Mmh. Ouais, effectivement, ça s'est fait aussi, ouais. Là, après, je donne 2-3 trucs qui sont un peu critiques, mais globalement, mon point de vue, c'est que ça, c'est hyper positif, tout ce qui s'est passé, en fait. Et on est grave sur le bon chemin, en fait. Parce que c'est des trucs qui se construisent sur du hyper long terme et pas juste sur une mobilisation.
Mmh. Oh. Non, vas-y, arrête ça. Vas-y, jette-la directement, putain.
Bon, je continue de me donner le droit de penser. Aucune classe protégée au pouvoir illimité. Il manipule ce monde immonde où la terre n'est plus ronde sans se punir en mort. Car la raison du plus fort résonne. Je cartonne, te donne l'or. D'accepter qu'on s'en rapporte sans te battre ni combattre. Le pouvoir absolu détenu avec la plupart des individus. Plein de vices, mais plein de vices, plein de vents, de femmes, de fatigues. Alors je conteste par la prime, par le carton de mes rimes, le fait que le pouvoir puisse décider seul du sort du monde qui compte sans cesse, sans faiblesse, cherchant la solution à leurs problèmes futurs. J'espère qu'ils prennent de l'envergure au fur et à mesure que le temps passe. Oui, leur suspense efface car le pouvoir en place n'est pas digne. L'impuissance est un signe révélateur. Je l'affirme, ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Il faut que tu le saches. Ouvrez les portes, la pression est trop forte. J'ai le mistral dans le dos. Attention, maintenant je m'emporte. On dirait que je n'ai non jamais je n'aurai la school chain. Et ton micro, je détiens le pouvoir des mots. c'est ton sort. Tu t'exposes à une mort certaine. Une perte de connaissance, un non-sens, une absence. Ok, je te laisse une dernière chance de reprendre les rênes en main, car je sais que tu détiens enfin au fond de toi la foi qui fait de moi un exemple à modèle. Le détenteur universel de cette potion, tout en sens, qui t'interpelle. Oui, j'excelle, tu perçois mon appel.
Donc
au-dessus des lois, je bâtirai mon toit, car ma conviction est sans phare et indéracinable. De par ma trompe, je suis l'exemple de cette génération plus ouverte à qui la terre a été offerte. Donc là, je jure d'un nouvel œil, l'évolution sera fatale pour tous les tortionnaires totalitaires, car ils sont tous complices. Mais long et long, et encore plus long, et la voix des bontons sur les chemins de la compréhension. En attendant, donne le coup de tête, une bonne raison l'issue de ta condition, car les dés seront lancés lorsque la masse réagira contre le conditionnement établi par les gros bœufs qui nous gouvernent. Et lorsqu'elle comprendra quel est le pouvoir. Qui bouge, qui lutte, qui combat l'oppression, le peuple en action, voilà la solution. Attention, méfie-toi de la puissance venue du bas qui saura faire sonner le glas avec perte et fracas. Oh la tête par chaîne, piétiné par Noé, car la situation, l'institution devient une dérision. Et laissons-nous espérer tomber, les dictatures n'empêchera pas la rupture, car l'humain s'entête dans sa folie, rien ne l'arrête. Alors toi qui te dis roi, sois roi de ta foi et non pas de ton frère. Et donc toi que j'appelle frère, quand finiras-tu de taire ses craintes et d'alimenter par ces mêmes craintes le pouvoir?
On a la chance d'avoir un invité VIP qui est arrivé en cours d'émission. Et si ça te dérange pas, bah, réagir finalement à ce bout de discussion que tu viens d'entendre.
Bah, moi, je suis un confrère à mes collègues. Ouais. On est de la même profession. Sur la partie de discussion qui était très importante en termes de retour d'expérience, notamment les réquisitions. Étant donné que c'était toujours en fait à l'horizon, mais sans que ça semble quelque chose qui soit probable. Mmh. C'est-à-dire, on savait que ça peut arriver, mais on s'y attendait pas. On s'y attendait pas, puisque en début d'un conflit, on sait jamais dans quelle mesure le conflit va prendre. Et de quelle ampleur. Donc c'était aussi ce critère-là qu'on pouvait pas anticiper, et malgré qu'on s'était donné les moyens d'y arriver. Et le deuxième critère sur lequel on pouvait pas s'y attendre, c'est la réaction du gouvernement face au mouvement social, leur mode de confrontation. Mmh. au monde du travail. Et du coup, là où je rejoins mon confrère dans le sens où c'était positif, c'est que s'il a utilisé, le gouvernement, cette carte qu'on pourrait considérer comme sa carte ultime face à une mobilisation sociale, c'est-à-dire la réquisition, le côté positif, c'est que ça montre qu'on les a mis en difficulté. Du coup, après, les leviers pour l'avenir, pour mieux s'y préparer, ça serait de renforcer l'action syndicale qui a été mise en place de manière très spontanée par les travailleuses et les travailleurs face à ces réquisitions, qu'on peut saluer et dont on peut revenir dessus pour valoriser. Mais à l'avenir, on pourra renforcer cela aussi par des actions via le levier juridique. Sur lequel il faut être réactif, il y a toujours la possibilité de faire des référés sous 48 heures, etc. Là, c'est arrivé en fin de conflit, c'est-à-dire c'est arrivé à un moment d'épuisement. Mmh. Donc ça ne changeait pas, je parle sous le contrôle de ma consoeur et de mon confrère, ça ne changeait pas tellement la donne en fait.
Oui.
Ça remet un petit coup de mou quand même, hein, parce que justement il y avait la fatigue et la réquisition, ça. Tu vois, la petite tape derrière la tête qui te sonne un peu quand même.
Après, on a vu les collègues, la manière dont ils réagissaient, je ne sais pas comment on peut qualifier ça comme la grève, je dirais, du zèle. C'est-à-dire en fait qu'ils prenaient leur service, mais qu'ils exerçaient de manière formelle ou parfois de manière informelle des droits de retrait face à des situations de danger grave et imminent, le fait qu'il y a du vrac qui se cumule, des risques infectieux, des risques de morsures et des risques psychosociaux face à la circulation, face à la pression. Et du coup, ça collectait un sac et ça arrêtait de collecter. Réquisition par réquisition, quand il y a une volonté collective de se mobiliser, sans le levier juridique, ils ont réussi à outrepasser cette réquisition à travers l'organisation collective et nos leviers du quotidien. Et du coup, parce que les dernières réquisitions sur les métiers des éboueurs, ça date de 1960, je sais plus, 3 ou 8.
Ah ouais.
Ça fait très longtemps, en fait.
Je crois que c'était même pas des éboueurs quoi. Je crois que c'est même pas des éboueurs qui ont été réquisitionnés. Je crois que c'est des militaires ou des trucs comme ça. C'est même pas les travailleurs.
Des militaires, certainement, face aux grèves des éboueurs.
Ouais.
On est triste de ne pas avoir vu les gendarmes récolter les poubelles quand même.
Je suis jamais triste de ne pas avoir un gendarme, moi.
J'avoue. Et alors, à ce moment-là, pour toi, c'est quoi les raisons qui font que ça a bien marché, là, cette année, le lien entre la mobilisation du privé et du public au niveau des déchets ?
En 2016, il y a eu, on a formalisé un cahier revendicatif commun de la CGT, du privé et du public, des activités des déchets.
Ok.
C'est-à-dire, on a un cahier revendicatif commun, et du coup, et en fait, ce travail, il émane de liens qui sont faits par le passé. Et de 2017 à 2023, bah, ce travail, il a contribué à renforcer les liens.
Ouais.
Parce qu'on avait une ligne commune. Et après, au-delà de ce cahier revendicatif, il a fallu quand même passer du temps ensemble. C'est-à-dire, on a les camarades du privé, du public, qui, au-delà de la solidarité, viennent voir ce qui se passe dans le privé, viennent soutenir, s'inquiètent de leur profession, au-delà des frontières qui ont été mises par les donneurs d'ordre, les collectivités qui ont vocation en fait, à nous diviser, notamment à travers la privatisation, à titre d'exemple, et dans le privé, à travers également la sous-traitance. Et du coup, il y a quand même, j'ai l'impression, une prise de conscience collective, qu'elle soit du privé ou du public, mais plus du public, puisque en fait, ils sont quand même à l'origine de la profession, puisque notre profession, elle est liée au territoire. Donc, elle est liée à la collectivité qui a autorité et compétence sur la collecte et les traitements des déchets. Donc, ils sont nos référents, nos référentes dans la profession, mais leurs socles sociaux sont aussi pris en compte en tant que référence pour les socles sociaux du privé. Donc, en fait, plus on va tirer le privé vers le bas, et plus ça va niveler le public vers le bas également.
Ouais.
Donc, en fait, notre avenir est il est commun, ça veut dire si ça se passe mal pour nous, ça se passera mal pour eux à un moment et pour elles à un moment donné. Et à l'inverse aussi, quand ils ont eu leur conflit sur le temps de travail annuel, bah forcément, après, s'ils perdent leur conflit, derrière, ça va se retentir sur notre socle social, où nous aussi, on va nous augmenter nos temps de travail par ricochet, en fait. Parce que dans un état d'esprit d'un système...
Niveler vers le bas.
Un système en fait
de mise en
concurrence en fait des travailleuses et des travailleurs entre eux. C'est pour cela que notre cahier revendicatif, c'est d'avoir un statut unique des travailleuses et des travailleurs du secteur du déchet. C'est-à-dire qu'on garde nos statuts, qu'on passe tout en étant pour être en régie et pour le retour en régie, mais au-delà de ça, qu'on passe du privé au public ou du public au privé ou d'une entreprise du privé à une autre entreprise du privé, en fait, que nous, ça ne nous change pas. Qu'ils arrêtent de faire, en fait, de manière qu'on ne soit pas la variable d'ajustement des appels d'offres des collectivités, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les travailleuses et les travailleurs du secteur du déchet. Et c'est ce qui se passe actuellement, et c'est ce qui a vocation, en fait, d'avoir la vocation de la privatisation, ça a été de nous tirer vers le bas. On ne pourra plus faire de grève efficace, en fait, si on ne fait pas des grèves de filière et si on ne fait pas des grèves publiques-privées, pour casser, en fait, cette mise en concurrence. On n'y aboutira pas.
Ouais.
Et ça, j'ai l'impression que le monde du travail, il l'a compris.
on a assez conscience du long terme, mais nous on sait que encore une fois, quand on dézoome un peu et qu'on regarde le truc, nous ce qu'on voit, c'est que effectivement, c'est toujours de façon dans le secteur public que ça fait grève et que ça se mobilise en premier. Nous ce qu'on voit, c'est que globalement, dans le privé, c'est toujours compliqué, c'est toujours une minorité qui se bouge, mais ils sont de plus en plus nombreux. Mm-hmm. Pour revenir à notre filière, nous on a quand même eu, Pizzorno qui sont rentrés en grève reconductible, pour une belle grève. Aussi longtemps que nous, on a eu même De Richebourg qui a posé un préavis, bon, qui c'est pas allé jusqu'au bout, mais voilà, il y avait quand même une volonté, il y avait de la communication. Donc pour nous, on en discute, on a conscience que c'est un travail qui se fait sur long terme, et donc en fait, on est déjà dans une stratégie, comme il l'expliquait Alain. On est déjà dans une stratégie de lutte commune, mais ça se fait sur du long terme. Parce qu'on a formalisé des revendications communes. Il y a quelque chose de formalisé, quoi, de posé.
Donc, c'est vrai que d'un coup, vous vous entendez dire, bah, en fait, on a monté un cahier de revendications communs. Parce que, en fait, ça nous donne une horizon commune et vers laquelle on peut se battre. Et en fait, ça aide au moment de la mobilisation. C'est un outil qui peut valoir déjà pour d'autres secteurs du public, ouais. Quoi. Ça fonctionne.
Ouais, ça fonctionne. Et après, je pense que c'est là-dedans qu'il faut continuer à le faire. Maintenant. La question, c'est comment le faire. Et on a quand même un truc qui est hyper dévalorisé depuis des années et des années, mais nous, c'est grâce à ça qu'on l'a fait, c'est l'outil syndical.
Alors, tu revenais sur le fait que vous êtes un des secteurs encore actuellement les plus syndiqués.
Ouais.
Tout à l'heure, au début de l'émission. Ah, oui. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que c'est une force et que c'est important ?
Ça donne du poids à nos revendications et surtout un réel aboutissement, moi, je trouve. Ouais. Hein.
Et puis, c'est une structure, quoi. Ah, c'est une structure qui est là, qui est existante. Ah, et c'est même palpable. C'est organique, c'est un outil, quoi. Tu vois, c'est comme quand tu arrives sur un chantier, il y a un marteau. C'est un marteau. Le syndicat, c'est un marteau, tu vois. Maintenant, si tu veux faire le même chantier et que tu n'as pas de marteau et que tu n'as pas de truc, tu fais comment ? Tu peux peut-être le faire, le boulot, mais c'est vachement plus compliqué. Tu vois, vraiment, prends-le, le marteau, tu vois, s'il t'aide.
Ouais, franchement, c'est une manière d'organiser.
Ah ouais, c'est clair, c'est ça. C'est purement, c'est un simple outil en fait. C'est juste ça, quoi.
Moi, sur quoi je souhaiterais revenir, c'est sur comment dupliquer en fait les cahiers revendicatifs communs d'une profession en interpro dans un état d'esprit de filière par rapport aux autres professions, ce qui nous aide en fait à le consolider et à le discuter. Et notre particularité, c'est qu'on a des espaces de travail en commun parce qu'en fait, on travaille dans les mêmes rues. C'est-à-dire, par exemple, on a les balayeurs de la régie du 15e arrondissement qui croisent tous les jours les éboueurs du privé du 15e arrondissement. Donc déjà, la rue, c'est un espace commun de discussion et d'échange, notamment sur les actualités sociales distinctes. On a d'autres espaces tels que les lieux de traitement, d'où les piquets de grève communs sur les lieux de traitement durant la période de conflit social. C'est-à-dire les éboueurs du public et du privé vont décharger dans ces mêmes incinérateurs, dans ces mêmes centres de tri, dont ils croisent les salariés de l'incinérateur. On côtoie les salariés du privé et du public au niveau de la collecte des salariés des centres de tri, souvent du privé. Donc on se voit, on se connaît et du coup on échange et ça nous aide en fait à casser la volonté de nous cloisonner. Et c'est ça la difficulté en fait de le dupliquer sur d'autres professions, c'est que cette stratégie patronale a vocation à nous cloisonner et du coup on se parle plus. Après sur la syndicalisation, c'est des fondamentaux en fait. Plus on sera syndiqué, plus on sera organisé, plus on aura une autonomie d'organisation et une autonomie financière dans nos stratégies syndicales. Et c'est là où on sera d'autant plus fort. De toute façon, c'est de toujours ça. On est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. C'est-à-dire, je ne sais plus les chiffres, mais je crois que c'est 8% la moyenne. Et nous, en moyenne, dans le déchet, et avec le public, tire vers le haut. Mais le privé aussi, il est syndiqué. Il y a un taux de syndicalisation qui peut être important, qui est au-dessus de la moyenne, parfois entre 10, 20%. C'est ça. Et là, du coup, la ville de Paris, on est plus vers les 20%, quoi. C'est le double de la moyenne, quoi. On n'est pas encore à de la syndicalisation massive, mais on est à de la syndicalisation qui est importante par rapport aux autres secteurs d'activité.
Moi, ce que je voulais savoir, c'est parce que c'est qui prend les décisions, parce que c'est toujours pareil. Sur la question aussi, c'est est-ce que c'est la base, c'est-à-dire les grévistes eux-mêmes sur leur lieu de travail, ou est-ce que c'est en haut, qui fait redescendre les stratégies. Comment vous avez pris les décisions? Comment vous êtes auto-organisé dans le syndicat, avec le syndicat? Comment ça se passait?
Je pense que ça diffère vachement d'un syndicat à l'autre. Nous, notre syndicat, il est gros. C'est-à-dire qu'on est, je crois, 1200 syndiqués. Un truc comme ça, entre 1000 et 1200.
Ouais, à peu près. Hein.
Donc, ça fait... Donc, pour prendre des décisions qui viennent d'en bas, les décisions... Enfin, les idées sont... Enfin, il faut structurer le truc. Ouais, donc, c'est... En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre. Il y a des fois des choses qui sont proposées par le haut, des fois des choses qui sont... Voilà. À savoir qu'en général, les choses qui sont proposées par en haut, quand même, en général, les gens qui sont en haut, ils ont quand même été élus par les gens qui sont en bas. Nous, ouais, 1200, on a l'air de rien. On est 1200 syndiqués, mais on est 300 militants, on va dire, c'est-à-dire délégués, tout ça, vraiment dans le truc. Et on est à peu près dans la commission exécutive, c'est-à-dire l'organe qui prend les décisions, on est 80. Donc, en général, ouais, c'est pas mal. Mais du coup, ça fait du monde pour prendre des décisions. Mais donc, du coup, effectivement, il y a des fois des choses qui vont être décidées par le bas, décidées, proposées par le bas ou proposées par le haut. Et après, en général, dans les commissions, on vote, et etc. Et puis après, il y a aussi, bien sûr, après, notre syndicat fonctionne comme ça. Il y a une sorte de légitimité à ceux qui sont en haut, à des fois... donner des à concerter et à proposer un peu plus de choses, et parce que des fois il y a la base, elle propose pas forcément des trucs aussi, il y a aussi plein, ça bouge beaucoup, donc il y a plein de nouveaux syndiqués aussi, cause pas forcément, cause moins, donc c'est franchement c'est hyper intéressant à observer, hein, mais c'est complexe en vrai, je pourrais pas dire. Et
mais résultat, tu disais qu'il y avait des commissions aussi.
Ouais, parce que nous, en fait, dans le service public, il y a plein de métiers. C'est 60 000 personnes sur Paris. Donc, il y a plusieurs CGT, nettoiement. Nous, on est déjà un syndicat de filière. Donc, déjà, nous, il y a plusieurs corps de métiers dans notre syndicat. Ouais. C'est un des seuls, tu vois. Ouais. Avant, c'était des syndicats corpo. Tu avais le syndicat des éboueurs, le syndicat des conducteurs, le syndicat des égoutiers, etc. Nous, on a fait un syndicat de filière, justement, déjà, pour combattre ce que parlait Alain tout à l'heure, cette espèce de stratégie de
division. C'est super intéressant, ça aussi, de dire on fait un syndicat de filière, on fait pas un syndicat corpo.
Ouais. Voilà, mais au-delà de ça, donc on a fait aussi on a formalisé le comité CGT de la fonction publique.
Okay.
Pour mettre en lien tout, donc nous dans le comité, il y a la petite enfance, il y a les cas, il y a les machins trucs, et donc c'est une union de syndicats en fait.
Ouais, juste sur le service public, sur Paris.
Ouais.
Ok, d'accord.
Après, tu as les fédérations qui sont... Donc là, nous, c'est Fédération du service public. Pour Alain, ça va être Fédération des transports. Puis après, tu as la Confédération. Tu vois, tu as tout un tas. Et puis après, tu as aussi... Ça reste corpo, c'est-à-dire que c'est par corps de métier. Déjà, service public, ça va changer. C'est déjà un peu plus territorial. Et puis après, tu as les unions locales, les unions départementales. C'est un autre type de maillage qui fait que quand tu croises les deux, bah, normalement, on est censé être à peu près partout, quoi.
Et en complément des explications qui sont très, très, très claires, c'est qu'en fait, ça ne vient pas s'opposer. En fait, ça vient renforcer. Et c'est, pour répondre à la question, c'est que la prise de décision, elle est collective. Et elle est à tous les niveaux. Et après, bon, on ne le conçoit pas comme haut et bas, mais les structures j'interprète, que tu considères hautes, c'est-à-dire les structures de champs professionnels, telles qu'il a cité, c'est pareil à titre d'exemple, la Fédération des services publics, en fait, ou d'autres fédérations, elles ont vocation en fait à donner la pulsion et à coordonner les choses sur un périmètre plus large. Mais elles peuvent pas faire sans les syndicats, et les syndicats elles peuvent pas faire sans les syndiqués. Et donc tout ça vient s'articuler en fait, et chacun en fait a son rôle, et les structures territoriales elles viennent renforcer. Et on peut pas faire également sans elles. C'est du coup souvent on peut avoir des critiques sur le fait du fait qu'on soit pas le plus réactif dans nos décisions, dans nos réactions ou dans nos actions. Mais c'est parce qu'on a cette organisation-là qui nous demande des grands espaces de discussion.
Mmh. Après, il y a juste un truc à retenir, parce qu'on sait que souvent, quand cette question est posée, c'est aussi souvent parce qu'il y a beaucoup d'exemples de gens qui pensent que ce n'est pas assez démocratique. Mmh. Et ouais, voilà. Mais comme le disait Alain tout à l'heure, enfin, il y a deux secondes, généralement, la tête d'orga, enfin, soit le secrétaire général d'un syndicat, s'il vient et qu'il propose un truc et que la base n'est pas d'accord, jamais va la suivre aveuglément, mmh. en fait. Mmh. 1000 personnes ne vont pas suivre le choix d'une personne toute seule si personne n'est d'accord. Donc, oui, même oui. si c'est elle qui impulse le truc.
On dirait, d'après ce que tu mets en avant, que c'est en s'appropriant, en se réappropriant le syndicat, à la base, que en fait, la question, elle est réglée.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on dirait que voilà, ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est ça. Quoi. C'est, en fait, c'est si la base, elle s'organise et qu'elle est active, dans tous les cas... la question de la représentativité et de qui sont les donneurs d'ordre, finalement, est presque réglée parce que bah, c'est elle qui met en œuvre.
Ah ouais.
Donc, si tu lui dis un truc qui lui convient pas, mmh. elle le fera pas.
Ah oui, là, mmh. il fait pas le poids. Ceux mmh. qui sont en haut, si elle a une base massive, enfin, massive et déterminée et qui prend l'outil syndical, elle aura pas le choix. Elle pourra pas, pour rien lui imposer, elle pourra que suivre et l'aider à structurer. C'est ce qui est son rôle.
On est en train de parler d'un mouvement qui... Voilà, qui va peut-être, enfin, on ne sait pas trop où on en est, mais toujours est-il que la loi a été promulguée, que théoriquement, on est obligé d'aller trimer jusqu'à 64, si ce n'est pas plus dans les années à venir. Et donc, du coup, quel sentiment vous avez après cet engagement qui a été extrêmement fort ? Est-ce que vous êtes dans un sentiment d'échec ou est-ce que vous êtes dans un sentiment de « Ok, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu le retrait ». Quelle est l'ambiance un peu aujourd'hui dans le secteur du déchet suite à ce mouvement ?
On n'a pas du tout un sentiment d'échec. Et ça, ce n'est pas uniquement le secteur des déchets ni de la propreté. Hein. C'est le ressenti national. Hein. Puisque c'est ça qui a changé la donne, c'est que la prise de conscience, en fait, elle n'est pas restée, comme disait Alain tout à l'heure, cloisonnée. En fait, elle s'est étendue, et ça s'est étendu comme une hémorragie. Et résultat, le peuple, puisque c'est de ça qu'il faut parler, le peuple, comment dirais-je, il ressent un sentiment de détermination. Le président, ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est le peuple qui l'a fait et non lui qui nous fait. Et résultat des courses, en fait, à l'énerver, ça fait l'effet inverse. Et c'est ce qu'il fait hein, constamment depuis, en tout cas, qu'il est rentré sur son deuxième mandat. Sa prétention et son mépris, en fait, attisent les foudres. Et ça rend les gens d'autant plus déterminés à ce que... Parce que pour lui, c'est lui qui fait et non le peuple qui le fait. Or, c'est pas ça, c'est le peuple qui l'a fait. À commencer par vouloir faire barrage au Front National, qui l'a remis sur un second mandat. Mais je suis persuadée que si c'était pas le Front National contre lui, il serait pas là.
Moi, je vois peu de gens qui me disent « Ah, c'est mort, non, ça y est, c'est fini ». J'ai entendu personne me dire ça.
Mais non, moi, pareil.
Plus, hein, ou
pareil.
L'extérieur, j'en sais rien. Mais non, nous, on est toujours motivés. Ah,
ah,
je sais
oui.
pas, je pense que...
Même justement, déterminé. Hein.
Tu parlais de la prise de conscience. Moi, justement, je suis archi d'accord. Dans le sens où j'ai l'impression que les gens, ils ont pris conscience que c'est pas juste... Là, on se bat pas juste pour les retraites, en fait.
Mais c'est un ensemble de choses.
C'est au-delà de ça.
Oui, ça va au-delà.
Je pense que le changement par rapport au même... Alors moi, je ne suis pas syndiqué depuis 40 piges, mais même par rapport aux autres mouvements que j'ai déjà vécu avant, la dernière réforme en 2019, ou même celle d'avant où j'étais un peu plus à distance de ça et tout, là, j'ai l'impression que là, la différence, c'est que là, on n'est plus, globalement, hein, l'avis des gens, c'est qu'on n'est plus dans une lutte pour un truc.
Mm-hmm.
On est là, c'est vraiment une opposition globale à un fonctionnement du système qu'on subit. Et donc, ce truc-là, ça s'inscrit là-dedans. Donc là, on lutte contre, mais à la limite, il l'a passé. Ok, vas-y, il l'a passé. C'est rien. C'est il a pris une tranchée, quoi. Mais en fait, c'est pas fini, là. Il y a rien qui est fini.
On a l'impression d'entendre, de la part des gens qui ont mené la mobilisation, et un sentiment de « c'est pas fini », et qu'en fait, c'est ceux qui s'y ont pas mis qui ont plus de difficultés à y croire. Résultat, on a envie de vous dire « mettez-vous-y, les gars,
ouais,
ça va vous donner de la force ». Ah non. Qu'est-ce que c'est l'ambiance pour toi, là, un peu ? Tu le sens comment ?
Pour le 6 juin et la rentrée, ça approche. Il y aura certainement des grèves, que ce soit dans le privé ou dans le public. C'est sûr, d'ailleurs. Après, dans quelle dimension ? Ça se travaille jusqu'à la veille. Je sais qu'il y a nos collègues de Suez qui vont se rassembler massivement au dépôt de Clichy. L'ensemble des dépôts d'Île-de-France, ils vont aller au dépôt de Clichy. Et au-delà, en fait, des jours à venir, pour nous, en fait, ce point d'étape, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de gros conflits dans notre secteur d'activité depuis près de 20 ans. Malgré que c'est un secteur d'activité très conflictuel, où il y a toujours des gros conflits, mais local. Et en fait, ils ont cassé ces gros conflits-là avec justement la privatisation, en nous cloisonnant. Et en fait, cette dernière grève, elle a permis, en fait, pour nous déjà, pour les concernés du public et du privé, pour les travailleuses et les travailleurs du secteur des activités des déchets, ça nous a permis de prendre conscience de notre rapport de force. Et ça, c'était pas forcément acquis après les stratégies patronales de privatisation, de sous-traitance, de cloisonnement, de mise en concurrence, etc. Et donc, en fait, quand on se projette au-delà du 6 juin. Ça veut dire qu'on a encore besoin de capitaliser ce retour d'expérience, d'en rediscuter. On a encore besoin de renforcer les liens publics-privés, de rediscuter. On a encore besoin de remettre à jour notre cahier revendicatif, notamment d'élargir sur la dimension des travailleuses et des travailleurs sans papier de notre secteur d'activité, notamment la dimension des intérimaires. On a encore besoin, du travail et on a encore besoin de renforcer.
C'est vrai qu'il y a énormément de secteurs qui emploient des sans-papiers en toute connaissance de cause et qui échappent complètement à tous les droits du travail. Ils sont vraiment complètement exploités, mais d'une manière absolument intolérable. Et c'est vrai qu'il faut absolument que dans tous les secteurs, ce soit pris en considération et que ce soit travailleurs précaires à statut, avec ou sans papier, même grille salariale, enfin même thune, même droit, tout quoi.
Ils font le même travail.
Donc, important.
En plus d'une variable d'ajustement par rapport à la dynamique du capital, ça devient aussi des variables d'ajustement quand on fait grève. Mais on sait aussi que potentiellement, il y a une loi travail l'année prochaine, non ?
Nous, la seule chose qu'on a conscience, en fait, en tout cas pour ma part, c'est que si on n'est pas dans une dynamique de s'organiser, de faire valoir nos droits, en fait, notre situation va régresser. Quelle que soit la thématique, en fait. Et on a une profession, en fait, où on est pressé. Et on nous ronge jusqu'aux os à travers la diminution, en fait, la dégradation de nos conditions de travail, la diminution de nos modes de rémunération. Ça devient, en fait, insupportable. Donc, en fait, quel que soit le sujet, on n'a pas trop le choix que de batailler pour ne pas régresser. Et c'était ce qui nous animait, que ce soit le privé ou le public, c'est ce qui nous animait, en fait, de notre dignité au travail, en fait, au-delà des sujets techniques, quels qu'ils soient, en fait.
Lui, il est la machine, quoi. En fait, déjà, en fait, c'est comme, ouais, je suis d'accord. Enfin, il y a tellement de sujets, il y a tellement de trucs, tu vois, on n'en parle pas forcément, là, tout de suite, de ce qui va arriver. On sait, de toute façon, que ça va arriver. On sait dans quel monde on vit, tu vois. On sait dans quel système on est, on sait dans quelle époque on est, on sait de toute façon.
Surtout le ras-le-bol, c'est général, hein, qu'il se soit toujours dans le même sens, en fait, que les efforts doivent abonder. Et dans l'autre sens, on se laisse vivre, quoi. Et ça, les gens, ils en ont ras-le-bol.
A beaucoup été mis en avant que la difficulté de se mettre en grève aussi, elle était due à cette précarité rampante. Et là, quand je t'entends dire, dans tous les cas, en fait, nous, on est conscients que si on se bat pas maintenant, ce sera dans tous les cas pire, quel que soit le niveau. Et résultat, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui font partie des 90% qui sont contre la réforme et qui en même temps...
Bonjour, donc je suis Candou Sabrina, ouvrière.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital. protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes-Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse